Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Bienvenue à vous, vous écoutez La Pensée des Peuples sur RDIWA 107.5. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes violences que peut subir la femme. Comment elle peut être utilisée comme objet sexuel, instrumentalisée gynécologiquement et violentée dans sa vie conjugale.
Je suis la créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre. J'ai créé la page en mars 2019. J'avais envie de collecter au même endroit des éléments du discours sexiste dans les médias pour pouvoir l'analyser. Ah bah celui-là, c'est le jackpot, dis donc. J'avais oublié. Le tonton avait les mains baladeuses, deux points. Le tribunal de Roanne le condamne à 2 ans de prison. Bon, alors là, on a une forme de familiarité avec l'agresseur qu'on appelle le tonton, alors qu'il n'y a absolument aucune raison qu'en tant que lecteur, on ait envie de le considérer comme un membre de notre famille, ou en tout cas d'être proche de lui. Surtout, il y a les mains baladeuses. Donc, toujours dans cette idée de ne pas mettre les hommes en sujet des verbes de la violence, il n'est plus acteur de l'action, c'est sa main qui fait tout le travail, comme si elle était dissociée de son intention, encore une fois, de nuire. Pareil, les mains baladeuses dans Google, des centaines de faits divers qui présentent des faits juridiques d'agression sexuelle comme si c'était presque rigolo ou des chatouilles ou comme si... Enfin, c'est assez drôle d'imaginer des mains qui se baladent, quoi. Mais c'est pas une balade, c'est une agression sexuelle. Tribunal de Cherbourg, l'amoureux éconduit avait menacé son ex avec une arme. On découvre le personnage de l'amoureux éconduit. C'est le personnage de l'homme frustré par une séparation, donc le profil des auteurs de féminicide en plus, dont on accepte que la réaction soit la violence quelque part, puisque on les nomme avec un groupe de mots qui est plutôt sympa pour le crime qu'ils commettent.
Ah non, les dérapages.
Alors, le masseur dérape, virgule, une plainte pour agression sexuelle. En France, on a une sorte d'incapacité à conjuguer le sujet homme avec le verbe de leur violence. Donc, on va utiliser souvent le mot déraper, comme si c'était possible de déraper et de commettre une violence sexuelle, comme si ça pouvait être accidentel, comme si, quand ça arrivait, c'était toujours dissocié d'une intention hostile envers les personnes visées. 2 ans de prison ferme pour attouchement sexuel sur ces 2 belles filles. On utilise le mot attouchement sexuel qui n'existe tout simplement pas dans la loi. Et on a une tendance à mal nommer les violences sexuelles, ce qui fait qu'on nous fait les confondre avec l'amour ou l'affection ou la séduction parfois, et ce qui est complètement faux. Et après, on peut pas s'étonner que les victimes mettent du temps à parler ou qu'elles identifient pas ce qui vient de leur arriver quand elles subissent une agression sexuelle si tout est si confus déjà dans les médias, qui est un des premiers accès à l'information. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on porte tous en nous des biais sexistes, mais qui sont le plus visibles dans les médias, que les médias, ça fabrique l'opinion, ça a construit mon opinion en tout cas, par réaction hostile ou par adhésion. Si ça m'a impacté profondément, c'est aussi parce que j'ai pas toujours adhéré au parti des victimes comme je le fais maintenant, et que vraiment ce traitement médiatique m'a amené à adhérer au discours qu'on appelle le discours agresseur dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. Donc ça a des conséquences concrètes, ça participe à maintenir un système, donc dans ce sens-là c'est pas anecdotique, mais je crois pas que ce soit conscient. Le fait de bien nommer les choses amène un changement dans la société. Ça change les représentations et ça change la manière dont on considère les victimes, dont on les croit, et ça change la manière de combattre le problème. I don't want to set the
world on fire. Je voudrais mettre au clair un truc poisseux. La culture du viol, vous en avez pas marre de faire comme si ça existait pas? Parce que vu le nombre de témoignages, faut vraiment avoir les yeux crevés pour pas se rendre compte que c'est partout tout le temps devant nous. Et pourtant, on a l'impression de découvrir le problème. Selon une étude Odoxa pour le Figaro et France Inter publiée pas plus tard qu'en octobre 2017, 53% des femmes et 63% des jeunes filles interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Pour t'aider à imaginer la proportion de femmes concernées, on va en prendre 5 que tu connais. Ta maman, ta mamie, ta sœur, ta copine et ta meilleure pote. Et comme 53 et 63%, bah c'est plus de la moitié, ça veut dire qu'il faut que tu en choisisses au moins 3. Consentement. Enfin là, on parle plutôt de l'absence de consentement. Pour faire court, c'est quand t'entreprends une interaction avec quelqu'un sans vraiment te poser la question de ce qu'elle peut ressentir. Rien à foutre. Ça s'appelle manquer d'empathie. Mesdames, ce soir, le chef vous propose la blague sexiste sur lit de téton pincé ou l'indémodable viol conjugal accompagné de sa main aux fesses. Ça marche aussi quand tu lui dis un truc qu'elle avait pas envie d'entendre ou de savoir.
Ouais, c'est patoche. Dis-moi, j'ai trouvé une stratégie d'enfer, là. Quand il y a une nana qui te plaît, ah bah tu lui dis... Attends, hé madame, t'es bonne, faudrait pas que je te croise la nuit. Eh, on est bien là, hein?
C'est quand une personne en pleine possession de ses moyens ne t'a pas dit oui de manière claire et manifeste. Tu comprends? Et tu sais, quand on vient de dire oui, on a le droit de dire non juste après. Et normalement, quand t'as compris ça, la différence entre séduction et harcèlement, ça devient facile aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que de plus réussir à faire la différence entre les deux, ça a l'air d'angoisser beaucoup de monde, surtout des mecs.
J'ai pas dit que des mecs. Ouais, c'est patoche. Dis-moi, j'espère que tous les textos que j'ai envoyés à ma secrétaire pendant la réunion sur sa mini-jupe, elle va pas prendre ça pour du harcèlement quand même. Oui, alors oui, elle l'a mérité. Mais je voudrais pas vexer son mari, quoi.
Le harcèlement dans la drague, ça commence quand une personne ne répond pas positivement à ta sollicitation, mais que tu recommences parce que tu t'en fous. Et peut-être, en français, ça veut pas dire « oui, vas-y, insiste à mort ». Peut-être ça veut dire « non pour le moment » et « je reviendrai vers toi peut-être si ça me chante plus tard, peut-être ».
C'est facile pourtant, peut-être.
Top, je suis un pays dans lequel 27% des gens pensent encore que l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. Je suis la France. Sache que 240 personnes sur les 1001 interrogées pensent qu'une fellation ou une pénétration avec le doigt, c'est pas du viol. Alors quand je parle de culture du viol avec le mot culture dedans qui te fait peur, c'est parce que c'est un phénomène culturel et collectif. C'est-à-dire que c'est partout dans notre société. Ça touche d'ailleurs aussi les hommes, les enfants et les maisons de retraite. Je veux dire, même dans les films, c'est courant. Tu te rappelles dans l'Empire Contre-Attaque, quand Yann Solo il coince Leia contre un mur en métal pour la forcer à l'embrasser? Bon, puis on va pas parler de James Bond. Pour te donner une idée de l'effet concret de cette culture, une femme en France se fait violer toutes les 9 minutes. Maman, mamie, ta sœur... Sans compter que si tu t'endors tranquille en te disant que si c'était arrivé, bah ça aurait été signalé. Sache que l'Observatoire National de la Délinquance confirme que jusqu'ici, seulement 10% des viols débouchent sur une plainte. Et 93% des poursuites pour harcèlement sont classées sans suite. Vous voulez pas qu'on arrête de faire n'importe quoi? Par exemple, on pourrait commencer par l'éducation des garçons.
Et des filles aussi.
Il y a aussi tous ces trucs que tu peux refuser de laisser dire ou faire autour de toi. Sinon, on pourrait simplement partager l'idée que, au lieu de toujours vouloir prendre quelque chose à la personne qu'on veut séduire, pourquoi est-ce qu'on penserait pas d'abord à ce qu'on pourrait lui offrir? Et tout le monde s'en fout.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses. Tourne dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus. plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête.
Nous en sommes témoins, partout, à n'importe quel moment.
80% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.
Comme un commentaire suggestif, un geste déplacé,
un contact inapproprié, ou même se faire suivre.
C'est une atteinte à notre dignité.
C'est une attaque à notre intégrité.
Nous en sommes témoins, mais souvent nous ne disons rien et détournons le regard.
Peut-être parce que nous ne savons pas quoi faire.
Comment aider, comment combattre cette situation?
J'aimerais vraiment vous l'arrêter, en fait.
Le moment est venu de réagir et de lutter ensemble contre le harcèlement de rue.
Allez, dis-moi souvent.
Chacun d'entre nous fait partie de la solution.
Excusez-moi, je vais payer mon verre.
Excuse-moi. C'est à toi?
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je cherche cette adresse.
L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement sexuel dans les lieux publics grâce à des actes simples, mais déterminants.
Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Apprenez à réagir sur standup-france.com.
Donc voilà, on a finalisé le dossier et on n'a plus qu'à savoir ce que vous en pensez.
Pardon, je me suis encore perdu dans ton décor. À chaque fois, elle rougit, j'adore.
Décolleté, je note. C'est pour le compte-rendu de réunion.
J'ai commencé dans le service il y a un peu plus d'un an. Au début, tout se passait bien, j'ai eu un très bon accueil de la part de mes collègues. Toute l'équipe s'entendait bien. J'étais contente, j'avais de nouvelles responsabilités, j'avais un travail enrichissant, c'était stimulant. Avec mon responsable, ça se passait bien aussi. On avait des rapports professionnels classiques, mais c'était un homme intelligent avec qui j'aimais beaucoup parler. Il était très sympa. Il me faisait des compliments. À chaque fois que j'arrivais, il remarquait une nouvelle tenue, une coupe de cheveux. C'était un peu trop, mais c'était des compliments, donc on les prend. Je me disais que parfois c'était maladroit. Puis peu à peu, ces compliments sont devenus réguliers, insistants. Il a commencé à me frôler par accident, de plus en plus souvent, à me remettre une mèche de cheveux. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Puis, il a commencé à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur mon intimité. C'était toujours sur le ton de l'humour, mais moi, ça me faisait pas rire. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de porter des jupes, des talons. Ça n'a rien changé. Je savais pas comment réagir et j'ai un peu tout essayé. Jusqu'au jour où...
en sorte d'oublier ce moment.
Ça m'a fait très très mal. Il prenait pas du tout en considération ma douleur.
Encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs.
Bonjour, je m'appelle Irina, j'ai 25 ans.
Je suis Benjamine Veil, j'ai 39 ans.
Je m'appelle Anya, j'ai 26 ans.
Et j'ai été victime de violences gynécologiques.
La première expérience que j'ai eue, c'était en 1993. J'ai 14 ans. Je vais chez le gynéco pour la première fois accompagnée par ma maman. Il m'a fait tout de suite un toucher vaginal assez profond, qui m'a fait très très mal. Donc j'ai crié, ce qui a amené à ce qu'il explique qu'en fait il devait y avoir un problème anal, donc j'ai eu le droit à un toucher anal dans la foulée. Et au moment où ce monsieur gentiment me fait ce toucher anal, il me dit « c'est de la bonne graine de salope ».
Je suis allée voir un gynécologue qui m'a prescrit d'aller faire un prélèvement dans un laboratoire. Du coup, j'ai vu le patron, c'était la première fois que je le voyais, et en fait, c'était lui, du coup, qui m'a fait le prélèvement. Au moment d'enfoncer le spéculum, il s'est arrêté d'un coup, et il m'a dit « Non, non, ça va pas être possible parce que vous mouillez pas ». Moi, je comprenais pas parce que je savais pas qu'il fallait mouiller pour un prélèvement. Et il me dit donc « Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous toucher pour vous exciter, pour mouiller, parce que sinon, ça va vous faire mal ». Et moi, je me retourne, je regarde pas. Du coup, il était hors de question que je fasse ce qu'il m'avait demandé, bien sûr. Mais pour avoir moins mal, du coup, j'ai décidé de mettre un peu de salive sur mes doigts et de mettre ça sur mes parties. Je voulais en fait en finir au plus vite et sortir de là au plus rapidement, en fait.
J'étais enceinte de 9 mois, donc j'arrive dans la salle d'accouchement et on me dit que, étant donné qu'il y a 5 accouchements en même temps, ça serait bien d'accélérer les choses. Une sage-femme rentre et me propose de percer la poche des os pour moi, pour que ça aille plus vite, mais que je risquerais d'avoir un peu plus mal. Donc moi, je me tourne vers mon compagnon pour peser le pour et le contre. On essaye de savoir quelle décision prendre. Quand elle part, elle me dit qu'elle m'a percé la poche des os, sans attendre mon avis.
C'est vraiment pas une question de violence d'homme à femme, mais vraiment de la société sur la femme, en fait.
2012, je vais pour faire une hystériographie dans une clinique parisienne. Et quand le monsieur rentre, il m'explique qu'il est le réparateur des femmes et que nous ne sommes qu'une mécanique, qu'il suffit de déboucher. On me fait rentrer dans un box, on me met les pieds sur l'étrier, j'attends de nouveau 20 minutes à poil en attendant. Le chef de service rentre dans la salle, accompagné de 20 internes, qui m'auscultent extrêmement rapidement, me fait très mal, je hurle, et il dit à tous ses internes, il se retourne en leur disant « Encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs ».
Je suis atteinte d'endométriose. Donc j'ai de l'endométriose depuis que j'ai 12 ans, ça fait 11 ans de diagnostic et de souffrance dans le silence, que les médecins ne prennent pas la douleur au sérieux. Parce que quand une femme dit « j'ai mal pendant mes règles », c'est censé être normal, en fait.
Donc, 2 heures après, les sages-femmes et des médecins rentrent dans la salle d'accouchement. Je connais que 2 personnes, personne ne se présente. Et on me demande de pousser. Sauf que je suis complètement anéantie. On m'engueule comme un enfant. On me dit que ce que je fais, c'est n'importe quoi, que c'est du mauvais travail. Et que si ça continue, on appellera le gynécologue. En me disant clairement, si on appelle le gynécologue, vous savez ce qui se passe, c'est l'épisiotomie. Et moi, je leur dis que c'est hors de question, que je ne veux pas d'épisiotomie. Au bout de 45 minutes de poussée, ils appellent le gynécologue. Le gynécologue me regarde dans les yeux et me dit « Vous inquiétez pas, madame, il n'y aura pas d'épisiotomie. Je vais juste vous poser une ventouse, ça va aider à faire sortir le bébé. » Je suis rassurée, mais il met la ventouse, tout se passe bien. Ma fille naît avec un peu de glaire dans la gorge, donc il l'emmène directement faire aspirer les gorges. Et je vois que le gynécologue reste entre mes jambes. Je lui demande alors... pourquoi il reste si j'ai été déchirée? Il rigole et il me dit « Non, je vous ai fait une épisiotomie. » Un mois après, je vais voir une sage-femme parce que j'ai très très mal. Et de là, elle me dit que j'ai été refermée un point de trop, ce qu'on appelle le point du mari, pour que mon vagin soit plus serré. C'est une douleur qui est constante, je sens toujours ce point-là, quoi qu'il arrive, tout le temps. De là, j'ai tout arrêté. J'ai plus été voir de sage-femme ni de gynécologue. On m'a dit qu'un gynécologue pouvait faire sauter le point du mari. Mais j'ai trop peur. Je veux plus qu'on me touche. Je veux plus qu'un étranger puisse accéder à cette partie de mon corps.
Plus que des songes, habillé par la peur, j'ai mis mon corps en danger. J'ai choisi de me taire et de faire face à la honte. Guidé par l'amour et la mort, je préférais te protéger. Je sais que je devais m'éloigner de toi. Pourtant, je trouvais refuge dans tes draps. Je compule les traces de tes doigts dans mon cœur. C'est là qu'Iria, je me déteste plus que toi. Oula, oulala, je compule les traces de tes doigts dans mon cœur. C'est là qu'Iria, je me déteste plus que toi. J'ai imaginé tant de fois à mon départ. Trop de haine en moi, je voulais tout défoncer. C'est comme si le monde autour ne m'entendait pas. Forcé de grandir ce vide, je dois le remplacer. Et mon corps ne répond plus. Et ta mort, je l'ai tant voulu. Et le mal que tu m'as fait, je ne pense pas que je l'ai mérité. Oula, oulala, je compte plus les traces de tes doigts dans mon cœur. C'est là qu'Iria, je me déteste plus que toi. Oula, oulala, je compte plus les traces de tes doigts dans mon cœur. C'est là qu'Iria, je me déteste plus que toi.
Les viols et kidnappings dans la mythologie grecque. Méduse. En effet, Méduse était réputée pour sa grande beauté. Un jour, le dieu Poséidon lui fit des avances qu'elle refusa. Elle tenta de se réfugier dans le temple de la déesse de la sagesse, Athéna. Mais le dieu, plus fort que tout, la retrouva et la viola, à l'intérieur même du lieu sacré. Dégoûtée par cela, la déesse vierge, Athéna, prit cet acte comme un affront, et plutôt que de punir son oncle, le dieu des océans, elle décide de punir la pauvre mortelle, Méduse. Elle transforme sa magnifique chevelure en l'eau de serpent, ainsi que son regard. Désormais, quiconque osera poser les yeux sur Méduse se retrouvera changé en statue de pierre. Europe, c'était une jeune femme d'une très grande beauté et d'une blancheur exceptionnelle, au point de la soupçonner d'avoir volé le phare d'Héra. Zeus se métamorphosa en magnifique taureau, immaculé blanc, comme la neige, et possédant deux petites cornes dorées et parfaitement recourbées. Il surgit de la mer et s'approcha doucement et paisiblement de la très belle Europe, qui jouait avec d'autres filles sur la plage de Tyr. Europe, séduite par le beau taureau et après quelques instants d'hésitation, s'approcha de lui, le caressa. L'orna avec ses compagnes de guirlandes de fleurs, et enfin, rassurée par sa docilité, elle monta sur son dos. Ce dernier profita de cette innocence pour s'élancer dans la mer en l'emportant à la nage sur son dos jusqu'à l'île de Crète. Lors de ce parcours effrayant à travers la mer Méditerranée sur le dos de Zeus taureau, Europe, de peur de tomber dans la mer, s'installa sur l'animal en s'agrippant fermement, de la main gauche, à une de ses cornes. Le malin Zeus taureau, souvent, enfonça intentionnellement son corps dans les flots, afin qu'elle s'attachât plus intimement à son cou. Poséidon, qui assista à la scène avec son épouse, calma la mer et effaça ses vagues, puis indiqua à son frère la direction à suivre pour atteindre la Crète. Des Néréides, chevauchant des dauphins, des tritons et des héros, et beaucoup d'autres créatures marines entourèrent la jeune princesse. Puis ils dansaient et chantaient afin de la rassurer et de la divertir. Aphrodite, portée dans une conque par deux tritons, accompagna la procession et répandait des fleurs sur la jeune femme de Tyr. Zeus taureau atteignit l'embouchure du fleuve l'été. Il reprit une forme humaine et s'unit à Europe, sous l'ombre d'un platane à feuilles persistantes. Europe, violée et déshonorée, ne cessa pas de se lamenter. Alors Aphrodite, qui l'écoutait, lui fit comprendre que devenir la maîtresse de Zeus sera le point de départ pour un nouveau destin pour elle et les enfants qu'elle mettra au monde.
J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur.
Quand tu essaies de m'embrasser.
Quand tu brûles les étapes.
Quand tu insistes.
Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle.
Quand ta main descend là où je veux pas.
Quand tu respectes pas mes limites.
Quand ton geste est inacceptable.
Quand tu dis qu'elle a couru après.
Quand tu prends mon nom
pour un oui.
Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement,
c'est une agression sexuelle.
Karima. Avec la voix de Stéphanie Duncan. Une jeune femme posée dans un fauteuil roulant regarde la télévision. Il pleut dehors.
Je m'appelle Karima, j'ai presque 19 ans. Je suis handicapée. Je marche très difficilement, je vois très mal et j'entends mal. Je n'ai jamais retenu le nom de cette maladie. Je vivais chez mes parents, mais ils ne s'occupaient pas de moi. D'ailleurs, personne ne s'occupait de moi. Je restais toute la journée dans mon fauteuil, posée devant la télé ou dans ma chambre, à ne rien faire. Mon père répétait à qui voulait l'entendre qu'avec moi, le mauvais œil s'était abattu sur la famille, que j'aurais mieux fait de crever à la naissance. J'aimais bien manger, mais on me privait de nourriture pour peser moins lourd quand mes frères me portaient pour sortir. Je suis partie pour 3 mois au bled avec mon père. Tout le monde a été très attentif. Toutes et tous se sont beaucoup occupés de moi. Tous les jours, j'étais lavée, parfumée. Je me sentais comme une petite reine, persuadée d'être belle. La contrepartie, tous les jours, les hommes de la famille, cousins, neveux, oncles, frères, me faisaient l'amour, comme ils disaient. En fait, ils me violaient. C'était dur, j'avais mal. On a appris aux plus jeunes comment faire. J'ai beaucoup pleuré. Je n'avais plus la sensation d'exister. Mais je devais faire semblant. Semblant d'avoir du plaisir. Semblant d'aimer ça. Même si c'était dur. Même si ça faisait mal. Sinon, ils m'injuriaient. Salope. Connasse. Me giflaient. 3 mois. Mon retour en France fut dur. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir.
Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Qui ne se rappelle pas les émotions du premier amour naissant ? À 14, 16 ou 18 ans, comment la proximité de l'élu pouvait nous faire chavirer et rêver pendant des heures ? Avant même de lui avoir adressé la parole, nous étions en amour avec l'amour. La première sortie, le premier baiser, la première promesse, la première caresse, puis la première claque. Chère Alice, cela fait maintenant 10 ans que je suis battue. J'ai tous les jours des femmes à s'en sortir, sans jamais rien dire. On me trouve classe, indépendante et chanceuse d'avoir cette vie. Mais nul ne sait que sous mes manches se cachent des bleus, suite aux coups qu'ils me donnent tous les jours. L'île est trop petite et j'ai trop peur que les autres n'aient plus cette belle image de moi et de nous. Alors je souris, mais je pleure en silence. Je vis dans une villa où plus d'un rêverait d'habiter, mais où même en prison, on ne peut vivre tel enfer. Et qui, évidemment, est bien trop loin des voisins, qui aurait pu entendre mes cris. Je n'ai plus d'amis, plus de famille. Je lui ai donné ma vie, donc je suis en vie. Parfois je ris, parfois j'ai peur, parfois je crie, parfois je pleure. J'ai pris tellement de coups que parfois je ne sens même plus la douleur. Ma très chère Alice, en vérité, c'est vous qui êtes forte, car vous avez pu dire stop. Alors, ne cédez pas à ses promesses et partez loin de lui. Et si je vous écris tout ceci, c'est parce que je sais que demain je serai loin et que nous ne pourrons pas nous croiser. Je vous souhaite beaucoup de chance. Nous avons tous le droit au bonheur. Soyez patiente. Le vôtre existe.
Décédé hier soir à Fort-de-France, son compagnon a été interpellé. Il est accusé de l'avoir frappé à la poitrine au niveau du cœur avec une arme blanche. La victime est décédée peu après l'arrivée des pompiers. Ceci porte à 145 le nombre de féminicides cette année en France.
Entre traverse les étapes jusqu'à ce qu'elle transperce notre âme. Madame, veuille accepter cette averse de coups sans état d'âme. Traverse les étapes jusqu'à ce qu'elle transperce notre âme. Madame, veuille accepter cette averse de coups sans état d'âme. S'en étaler les longues balades et tous ces mots, mon merveilleux. Jeune femme qui rêve d'amour, jeune femme qui rêve de mieux. Une demoiselle parmi tant d'autres, passionnée d'art et de culture. Parsemer sa vie comme seule arme, un crayon dans la chaussure. Regard insistant dans la chaussée, c'est une question d'habitude. Aucune issue, un verre d'alcool pour crier son amertume. Pour crier son désespoir qui à une seule gorgée se résume. Tard la nuit, dans l'insomnie, elle se crée ses rêves obscurs. Quand plus rien ne rassure, dans les cris au crépuscule. Des semaines passent pour arpenter cette ruelle de l'espoir. Et à partir de ce jour, un sourire pour une nouvelle histoire, un soupir, un regard vers l'horizon, une raison de s'y voir. Des sentiments qui émergent, la peur du vide qui s'empare. La peur de vivre le pire, c'est le cœur d'une fille qui s'embrase. Et les semaines qui défilent peu à peu, c'est la routine qui s'installe. Déception, c'est l'hécatombe, elle qui voyait en lui l'homme idéal. Voit en lui l'homme qui dérape sous une période hivernale. Jeune demoiselle, la larme à l'œil, ressent les coups s'abattre. Des yeux remplis de haine, un corps qui saigne au visage pâle. Laissé pour abandon, comme souvent une douleur qui s'étale. Des lumières qui s'éteignent, où lui seul trouvera le sommeil. Où ruisselle un silence bref avant le lever du soleil. Lendemain, jeune demoiselle veille à rester. Rester belle, veille à rester celle qui mérite de vivre la vie qu'elle rêve. Des souvenirs, un bonjour d'une jeune fille qui s'émerveille. La tendresse d'un enfant, un peu d'espoir dans la ruelle. Une côte cassée, des bleus cachés, mais reste muette. Très peu d'amis, très peu de famille, tout le monde la délaisse. Dans ce monde, le jugement est synonyme de paraître. Perdu dans son cauchemar, est-ce que ce soir la vie s'arrête? Tant de questions, être une personne qu'elle n'a pas su être. Aucune notion du temps, jeune demoiselle qui veut renaître. Chaque soir, c'est la même scène, c'est sa vie contre la sienne. Rêve de fillette, partie en fumée, et c'est la honte qui fait surface. S'efforce à croire que c'est là-haut que les plaies s'effacent, qu'elle n'a plus sa place comme cette fleur que l'on ramasse. Chacun fait son temps puis finit par faner un jour ou l'autre. Faut rester calme quand le monde s'écroule, à qui la faute? Où est la force? La peur d'admettre quelque chose de la sorte. Un regard qui appelle à l'aide, des ragots qui l'annoncent morte. Un rejet de la vie humaine, un simple rajout du décor. Lui glisse un petit effort, ce soir ma grande tu t'en sors.
Un souffle coupé ma grande, on respire encore, respire encore.
Petite fille avec un bouquet de roses pour guérir les entorses. La bonté qui se fait rare, le rire d'une enfant, une ouverture de porte. Jeune demoiselle déploie ses ailes, écoute la vie avant que la vie l'emporte. Ne cherche plus le bonheur, un de ces quatre, le destin te l'apporte. Tout arrive à point, un peu de patience autant que l'on accorde. Alors autant que l'on s'accroche aux souvenirs qui nous rapprochent. Jeune demoiselle dans la ruelle sort son crayon pour tailler dans la roche. Quelques signes d'espoir, quelques rimes à l'heure où sonne la cloche. Dans la ruelle de l'espoir, une demoiselle parmi tant d'autres. En plein mois d'août, bercée par le plus beau des arcs-en-ciel. Qu'est-ce que la vie nous enseigne si on est perdu dans la sienne? Si on n'a plus rien dans l'assiette, que notre seule présence est partielle. Dans la ruelle de l'espoir s'illumine le plus beau des arcs-en-ciel.
Lui-ci. Et il a précisé, après troubles répétitifs, excédant les inconvénients normaux du voisinage, après mise en demeure, dûment motivé par votre bailleur, Monsieur Lornac.
Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça, moi? Que j'avais toujours payé mon loyer. Que mon mari, quand il s'énervait, personne n'arrivait à le calmer. Qu'il allait sans doute s'améliorer du caractère, qu'il me l'avait juré. Lucien, impassible, a continué de lire son avis d'expulsion. Les attestations versées au débat font état de nuisances sonores de nuit comme de jour. De nuit surtout, je lui ai dit. Ça l'inspire. De bruits de rix. De rix? Des baffes dans la gueule, oui. De hurlements. Comment tu réagirais, toi, si on t'arrangeait le portrait? Je vais dire moi-même. Mon mari, quand il a bu, monsieur lui-ci, fait valser tout ce qui lui tombe sous la main. La vaisselle, les chaises, les lampes. Et moi. Surtout moi. D'insultes et de menaces. Continue l'huissier sur son ton impassible. C'est ça le pire, monsieur l'huissier, je lui ai dit. C'est ça qui fout le plus la honte. Les insultes, les méchancetés. Et je vais t'en mettre une. Et je vais te buter, salope. Tu vas t'en mordre les doigts, ne... Tu te se comporter comme une petite pute. Et toutes les horreurs qui lui montent à la tête quand il a vu. Les troubles ont excédé les inconvénients normaux du voisinage, comme il a été établi par plusieurs témoignages. Par plusieurs témoignages, je lui dis. Mais pourquoi ils sont pas venus me le dire à moi, les voisins? Pourquoi? Lucie n'a pas répondu. Il a continué à lire son avis d'expulsion. Sur le ton de quelqu'un qui lit un mode d'emploi. Pour manquement à l'usage paisible du local loué, je vous fais donc interactif commandement. Je peux écouter son interactif commandement. J'ai mis la photo de ma mère dans mon sac. Mes lunettes, mon portable, mes papiers. Enfin, toute ma fortune, quoi. Et puis je suis partie. Direction nulle part.
A duré 4 mois. Tant que nous faisions l'amour encore selon ses goûts. Ça s'est gâté quand j'ai dit non à certaines de ses lubies. Que je me dérobais prétendant des nausées. J'avais pas le choix. J'avais trop peur de perdre mon bébé. D'abîmer ma petite fille. Ma perle. Mon rayon de lumière. Comme ça tous les soirs. Ça fait 2 heures qu'il titube, se cogne à la table, aux chaises, qu'il insulte ses démons et qu'il me lance tout ce qu'il trouve. L'appartement n'est pas grand, mais il est plein de bibelots. De petits masques en bois, des cendriers en verre, un sablier en plastique, des coquillages, un saxophoniste taillé dans la pierre, une reine guerrière en bronze portant une lance. Un réveil à quartz, même la télécommande y passe. La plupart de ces bibelots, c'est de ma faute. J'esquive. Sans trop de mouvement, l'habitude. Ça l'amusait de voir mon ventre s'arrondir. C'est vrai que c'était drôle de voir cette boule se former, puis les bosses rapides des coups de pied et coups de coude qu'elle commençait à me donner. En journée, il lui arrive d'être tendre et attentionné. La semaine dernière, il est rentré tout frétillant avec le berceau et un matelas. Il a laissé le petit matelas dans son plastique, il a dit que ça resterait plus propre. J'ai de plus en plus peur pour mon bébé. Par chance, il ne me frappe pas au ventre, mais il m'étrangle. Mon cou ressemble à un coupon de wax qu'on a repeint plusieurs fois. J'aurais dû me méfier depuis le début avec cette chanson. Cette histoire de couleur café et de danse avec des bracelets aux pieds, c'est que de l'esbrouf.
Madame, pour la plainte.
Thank you.
résumé de Barbe Bleue. Un homme riche avait une barbe bleue qui le rendait extrêmement laid, si bien que les femmes le fuyaient. On savait qu'il avait déjà été marié plusieurs fois, mais ce qu'étaient devenues ces femmes, personne ne le savait. Enfin, Barbe Bleue réussit à gagner le cœur de la fille d'un de ses voisins. Ils se marièrent et elle alla vivre dans une de ses vastes maisons. Un jour, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il avait des affaires à régler dans la campagne et qu'il s'absenterait plusieurs jours. Il lui confia les clés des différentes pièces de la maison qui contenaient son trésor. Il lui dit qu'elle était libre d'ouvrir n'importe quelle porte, à l'exception d'une seule, la porte d'un placard secret de la maison, dans laquelle il lui était interdit de regarder. Elle se plie à ses désirs et lui fait signe de partir. Il ne faut pas longtemps pour que la curiosité de la jeune épouse prenne le dessus et qu'elle se risque à jeter un coup d'œil dans la chambre interdite. Après tout, Barbe Bleue ne découvrirait jamais qu'elle lui avait désobéi. Elle prit la clé de l'armoire et l'ouvrit. Elle découvrit que le sol était couvert de sang et que des cadavres de femmes étaient conservés dans la chambre. Voilà donc ce qui était arrivé à toutes les précédentes épouses de Barbe Bleue. Dans son choc et sa frayeur, la jeune épouse laissa tomber la clé sur le sol et, l'ayant récupérée, elle verrouilla la porte de la chambre et alla remettre la clé à sa place. Malheureusement, la clé était maintenant tachée de sang. Elle entreprit de la nettoyer, d'essuyer le sang sur la clé, mais le sang revenait. Chaque fois qu'elle nettoyait la clé, le sang restait. Elle raconte à sa sœur l'horrible secret qu'elle a découvert. Et elles échafaudent un plan pour fuir le château le lendemain matin. Mais Barbe Bleue revient soudainement, découvre la clé ensanglantée et menace de tuer sa femme sur le champ. Suppliant une dernière prière avant qu'elle et sa sœur ne soient massacrées, la femme de Barbe Bleue se gagne suffisamment de temps pour que ses frères arrivent et les sauvent, elle et sa sœur, tuant Barbe Bleue. La femme de Barbe Bleue fait enterrer officiellement les épouses mortes et hérite du château de Barbe Bleue. Elle finit par se remarier et vit heureuse.
C'était jamais arrivé, il n'y avait même jamais eu ne serait-ce qu'une gifle, une bousculade, rien. Des petites remarques, mais des petites remarques comme il y a dans tous les couples. « Oh, j'aime pas trop quand tu mets ces chaussures là, je te préfère coiffer comme ça. » Rien de... dans le fond, rien de méchant, mais qui était déjà les premiers éléments qui auraient dû me mettre l'alerte et qui certainement faisait que j'avais ce malaise et ce mal-être que je comprenais pas mais qui était tout à fait explicable. Et donc ce soir-là, j'ai grimpé ces fameux 3 étages de mon immeuble par les cheveux. Et là, il ouvre la porte, et il me jette dans l'entrée et là, je me relève et je me dis « Oh, ah ouais, non, là, j'ai intérêt à faire très très attention à ce que je vais dire parce que je sentais que ça allait basculer. »
Accalmie entre deux tempêtes comme une brise d'air dans l'océan. Se boucher les oreilles la nuit pour ne plus écouter tout ce néant. Encore un soir de larmes, prisonnier de tes draps blancs. Protégé par une femme qui sous son voile cache un visage sanglant. Tous les mots d'artistes, les stylos noircissent. Encore des enfants sous le choc d'une mort brutale. Avant que les autres agissent, on voit que les os tarissent. Encore une nuit sous la violence conjugale. Oui tous les traumatisent, il faut que les côtes affrisent. Il est grand temps que le vent tourne à l'orage. Moi tous ces matrice, faut-il un autre caprice? Il faut fermer ce livret, brûler ses pages. Ce putain de fléau nous guette, on y échappe seulement par volonté. C'est seulement quand la pluie s'arrête que le soleil nous parle de sa bonté. Comment faire preuve d'humanité? J'ai pu lire dans ses petits yeux d'enfant. Papa, s'te plaît, ne te fâche pas, il me reste que des photos de maman. Ses poings fermés, rouges vifs, encore brûlant de la dernière leçon. Seule la peau flasque est meurtrie. Comment prendre que nous laissons un dernier soupir timide, au risque de voir se braquer. Ultime regard évasif à travers son cercueil blanc nacré.
Faut qu'on fasse bouffer.
Comment ça tu soupires hein?
Moi je rêve d'être stable, mais mon cœur n'y est pas. Dans mon cœur c'est Bagdad, les mains ne tiennent pas à ton gris.
balcon par la fenêtre. Tous les jours il fait sombre, plus les jours passent, plus je m'enfonce dans ma tombe. J'ouvre à peine les yeux car l'amour en t'aveugle. On s'est dit oui devant Dieu, mais si oui est en deuil. J'encaisse sans me plaindre d'un cortège. T'es de bleu, c'est pas la mer que tu regardes, c'est mon corps sur un pieu. Je ne rêve plus de la vie car j'ai peur quand je m'endors. Et quand je dors, je pense à lui car j'aimerais qu'il soit mort. Je respire mais j'ai mal, la douleur est tenace comme ce port de Marie qui me frappe sans relâche. J'encaisse sans me plaindre car je me dois d'être forte. J'ai ma gosse qui me regarde, maman tu es morte. Un silence puis un autre et elle pleure sur sa mère. Une de plus au compteur, une de plus qu'on enterre. Maman, ton visage me hante. Maman, ton sourire me manque.
Je dis oui, je sais, j'aurais pas dû m'emporter, j'aurais pas dû m'énerver, je suis désolée, excuse-moi, mais comprends-moi. Et je me justifie à sa place. J'ai oublié, moi, que j'ai volé dans l'entrée, que j'ai monté les escaliers avec mes cheveux. J'ai complètement oublié. Et d'un coup, il re-rentre dans la cuisine, il bondit sur moi et il m'étrangle. Je décolle du sol, il me plaque contre le sèche-linge et il m'étrangle. Et toutes ces scènes de violence que j'ai vécues, c'est comme les gens qui ont vécu des morts imminentes. Je les vois de l'extérieur. Et donc je me vois vraiment décoller du sol, ses mains autour de mon cou, et moi essayer de respirer ou de sortir un son et me rendre compte que je ne pouvais plus sortir un son et que donc il était réellement en train de m'étrangler et pas juste en train de me saisir. Et d'un seul coup, trou noir, trou noir.
Il m'a déjà traîné par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. J'avais tout le haut dénudé. Il aimait bien m'attraper par la nuque, par la gorge. Et il me tirait souvent les cheveux, il me faisait tomber des escaliers. Quand il était vraiment en colère et que je me débattais, Il m'a amené jusque la porte d'entrée quand je disais que je voulais partir et il m'a arraché mes vêtements pour me jeter nue dans la rue. Ou une fois, il m'a déjà traîné par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. J'avais tout le haut dénudé. Ce jour-là, il m'a laissé, après m'avoir étranglé pendant plusieurs minutes, il m'a laissé sur le sol, j'ai suffoqué. Et j'avais vraiment mal et j'ai été voir un médecin et il m'a dit qu'il fallait porter plainte. Je suis allée au bureau de police pour voir ce que je pouvais faire pour que ça s'arrête. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'aie des preuves et que je pouvais déposer une main courante contre X. Je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police, elle m'a dit qu'il fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. De mon côté, je suis pas arrivée en disant « Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai été violée, j'ai été séquestrée, il m'a battue » parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait 15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient, parce qu'il faut dire haut et fort son identité, il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de ne pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là.
De ces femmes brisées dans leur silence. Tu sais que comme le tabac, je t'offre une mort lente. Je suis ton pire cauchemar, tu rêves d'une balle dans la gorge. À chacun des abondants, aucun caractère ne se forge. Sous terre je t'ai mis alors que ce n'était pas mon rôle. Je ne suis pas un ange, sur ma tête pas d'auréole. Car j'ai fait ce qu'il y a de pire au monde. Frapper fort sur ma femme, la jeter dans les cordes. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tout est de ma faute. Après l'avoir frappé, j'ai pris la porte car il a fait ce qu'il y a de pire au monde. Frapper fort sur une femme, la laisser pleurer seule. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est tombé sur ma gueule. Après m'avoir giflé, j'ai dû faire le deuil.
Ferme ta gueule, t'as compris ça?
Je ne toucherai plus jamais. Pourquoi soudain?
Faut pas le laisser comme ça, c'est mon mari. S'il te plaît, tu me dis tout ce que t'as fait.
Tu m'entends? Tu demandes pour moi.
Vous voulez quoi? Savoir si c'est...
en vol de l'ange. Je cueillerai les larmes sur la fleur de tes cils et j'irai porter tes pleurs au sourire de la lune. Dans le souffle de son haleine brune, j'enfermerai les stigmates de l'indicible. J'enfouirai les blessures de l'amour caillé. Je ferai monter l'écho des plaies qui murmurent. Je ferai germer la revanche des angoisses muettes. Dans le souffle de son haleine brune. Dans le clair laiteux de la lune, je briserai le miroir de la honte pour libérer le reflet de ton âme profonde. Je tuerai les mains qui blessent. Je ferai brûler les mots entraves. Dans le clair laiteux de la lune. Dans le soir de la blanche brume, ma main saisira ton cœur. Nous irons conjurer les obscurs sortilèges. Nous délierons les liens des anathèmes. Mon cœur saisira ta main dans le soir de la blanche brume. Je cueillerai les larmes sur la fleur de tes cils et j'irai porter tes pleurs au sourire de la lune. Alors tout ira bien, petit ange, tout ira bien, petit être. Mariposa. Tristesse des femmes qui se demandent pourquoi vouloir contrôler, inférioriser, violenter le sexe féminin.